En séance. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
L'Europe est cette année l'un des principaux thèmes de travail de l'Académie des sciences morales et politiques, placé sous la présidence de M. Michel Albert. Tous les lundis à 15h en salle des séances, un académicien ou une personnalité extérieure à l'Académie vient présenter une communication consacrée à ce thème. Et le lundi 22 mars 2004, l'Académie avait invité Mme Nicole Nota, ancienne secrétaire générale de la CFDT, aujourd'hui présidente de Vigeo, un cabinet de notation sociale des entreprises. Mme Nota présentait une communication intitulée « Quel avenir pour le modèle social européen ?». Nous rejoignons tout de suite la salle des séances pour écouter Nicole Nota.
Monsieur le Président, mille merci pour cet accueil et cette présentation. Vous m'avez en effet demandé de vous éclairer sur l'avenir du modèle social européen. C'est un modèle qui fait l'objet de préoccupations de tous bords, je puis dire, mais ce qui caractérise le plus, je crois, ce contexte, c'est qu'on le dit malade. Il a de vrais et de faux amis qui se pressent à son chevet et qui, bien sûr, proposent les uns et les autres leur propre médecine. Pour les uns, il faut vite le vacciner contre les agressions qui viennent du grand large. Pour les autres, au contraire, il a besoin d'une cure d'amaigrissement pour lui permettre de rester dans la course. Ainsi, dans le débat public, le modèle social relève le plus souvent du domaine de l'évidence. Il existe, il est caractérisé par ses manifestations les plus apparentes, que sont la place de l'État, la place des systèmes de protection sociale. Certains y voient là des garanties contre le marché, d'autres, au contraire, y voient des hypertrophies paralysantes pour les par rapport justement aux évolutions à conduire. Cette approche binaire me semble faire l'économie d'un essai d'explicitation, peut-être même d'explication, de ce qu'est le modèle social européen au fond. La dynamique de la construction européenne qui a pu faire modèle et l'interrogation aussi sur ce singulier, nous parlons du le modèle social européen, mérite à l'évidence d'être analysée et d'être comprise avant de s'aventurer dans l'exploration de ce qui pourrait être, en tout cas à mes yeux, la reconstruction non point d'un modèle social, mais de ce que serait une nouvelle dynamique économique et sociale pour l'Europe d'aujourd'hui, et vous y verrez là la continuité avec les propos que j'ai pu tenir ici même il y a 3 ans. Donc je crois qu'il faut commencer par s'interroger sur le modèle social européen en tant que tel, pour savoir d'abord s'il est tout simplement un mythe de l'âge d'or. L'invocation de ce modèle social européen, si on regarde bien les choses, est finalement récente. Elle est liée au ralentissement de la croissance économique, à l'état des finances publiques, à la montée du chômage, finalement au changement de climat politique et intellectuel qui a été amorcé au tournant des années 80. Tant que la croissance a été vigoureuse et que le plein emploi était au rendez-vous, tant que l'intégration sociale, mais aussi l'ascenseur social ont fonctionné, tant que le pouvoir d'achat a progressé, au moins tant que la population avait la perception d'un mieux-être, tant que la couverture des grands risques sociaux, comme la maladie, comme la vieillesse, comme le chômage, ont progressé dans les pays européens, on évoquait finalement peu le modèle social en tant que tel, et le débat sur les conditions de sa survie n'avait pas lieu d'être et n'était pas du tout à l'ordre du jour. Quant à l'unicité du modèle, c'est-à-dire de ce modèle dont on parle désormais, elle était encore moins perçue. Et j'allais presque dire « et pour cause ». Parce que, qu'il s'agisse de la place et des fonctions de l'État, des structures de la fiscalité dans ces États ou des systèmes de protection sociale, selon qu'on soit en Allemagne ou en Grande-Bretagne, qu'il s'agisse encore des systèmes de relations professionnelles, du rôle de la négociation collective, de sa pratique effective par les acteurs sociaux, tout invite à l'évidence pendant cette période à mettre surtout en évidence les particularités des modèles nationaux plus qu'une spécificité précise du modèle social européen. Les facteurs donc de différenciation ont été et sont d'ailleurs encore réels. Je le redis sans même évoquer le cas britannique. À première vue, qu'y a-t-il de commun entre la France, qui est caractérisée par l'État étant l'instituteur du social, avec son corollaire, la faiblesse des partenaires sociaux? Donc, quoi de comparable entre cette réalité française, mais aussi le modèle rhénan de l'Allemagne néo-corporatiste, ou encore du compromis social-démocrate des pays nordiques, qui repose sur un consensus, allons-nous dire, communautaire, et sur un réalisme économique comme principe devenu quasi d'ordre public dans ces pays. Ces différences réelles ont bien sûr produit des effets incontestables, perceptibles, et d'autant plus significatives qu'elles permettent de rendre largement compte des situations contrastées que l'on peut observer encore aujourd'hui. Et au moment où l'on parle le plus, je crois, du modèle social européen, les diversités et les replis nationaux me semblent se renforcer, et ce n'est sans doute pas là le moindre des paradoxes. Et pourtant, malgré ces différences qui n'ont rien de secondaire, parler d'un modèle social européen n'est pas une opération de rationalisation a posteriori pour les besoins d'une démonstration. Un retour en arrière au sortir de la Deuxième Guerre mondiale est à l'évidence nécessaire pour comprendre la dynamique politique et socio-économique qui va se déployer en Europe. Il n'y a nulle part à cette époque de définition claire, de définition précise d'un modèle social. Mais il y a alors, chez les dirigeants, comme chez les populations qui ont été les uns et les autres traumatisés par le drame sans précédent que les peuples d'Europe viennent de vivre, il y a une volonté, la volonté de ne plus jamais connaître ce qui vient de se passer. On le sait, la grande crise des années 30, le chômage de masse, l'exacerbation des nationalismes et des passions sociales qui ont été chauffées à blanc, sont rendus responsables de la montée de ce que l'on appelle encore à l'époque les régimes dictatoriaux et de l'hitlérisme, mais aussi du cataclysme de la guerre, à peine 20 ans avant la précédente. La réponse qui est alors trouvée, ce sera la construction du welfare state et les engagements pris pendant la guerre pour construire un autre monde. À ce moment-là, c'est là que Beveridge publie « Full Employment in Free Society », En 1944, il en est la figure emblématique. Un autre ressort va aussi puissamment jouer pour accorder une place aussi importante à cette époque à la dimension sociale qu'à la reconstruction économique. C'est le danger communiste, lié à la proximité menaçante de l'Union soviétique, mais aussi à la présence de partis communistes puissants dans deux des principaux pays au moins ouest européen. Dans des pays qui ont été ravagés par la guerre, il faut, pensons-nous à cette époque, couper l'herbe sous les pieds de ceux qui seraient tentés d'exploiter les difficultés de la vie quotidienne et le mécontentement social. Lorsque l'on analyse rétrospectivement la reconstruction, puis la phase de longue croissance et de plein emploi, il peut être utile de souligner comment la dimension sociale a alors été intégrée dans la modernisation. Ce n'était pas un plus à côté du reste, c'était un élément du tout. Avec évidemment l'institution de tout le système de protection sociale dans les pays ouest européens, à vrai dire, Ils étaient entamés dès les années 30 dans l'Europe du Nord, mais aussi avec les premiers pas dans la construction européenne en tant que telle, que l'on pense à la CECA dans la concentration et la restructuration de la sidérurgie européenne. Les Européens ont donc ainsi mis en place de façon convergente, bien que différenciée en fonction des cultures politiques et sociales spécifiques et des situations historiques particulières, les éléments communs qui vont devenir constitutifs d'un modèle social européen. Il y a une même dynamique politique et sociale à l'œuvre, un projet politique identique par-delà les différences et les spécificités nationales. Un projet qui est finalement conforté par la conscience d'une communauté de destin qu'il fallait forger dans la paix et dans la prospérité. À ce stade, on peut rappeler, je voudrais simplement rappeler succinctement les traits essentiels de ce modèle socio-économique à l'œuvre en Europe. Outre, bien sûr, la reconstruction, le développement des infrastructures et des industries considérées alors comme étant de base, c'est aussi le pilotage de la conjoncture économique. Pilotage qui découle directement, rappelons-le, de la lecture keynésienne de la macroéconomie, et de la mise au point des premiers outils de comptabilité nationale. Mais cette précision est peut-être utile, et contrairement à une idée aujourd'hui répandue, cette politique keynésienne n'est pas par nature nécessairement expansive, mais centrée sur l'idée qu'il convient de résorber des décalages et des déséquilibres à un moment donné entre la production et la demande par des politiques correctrices, que ce soit dans la récession ou la surchauffe inflationniste, pour anticiper et prévenir des retours problématiques à l'équilibre. La forte croissance donc que connaît l'Europe continentale, largement due au rattrapage par rapport aux États-Unis, entraîne alors dans un contexte de plein emploi des mutations sectorielles et donc sociales de grande ampleur et des déplacements de populations actives considérables de l'agriculture et des activités primaires, d'abord vers l'industrie taylorisée, puis vers des activités tertiaires, dont les services publics et l'administration. Mais l'ampleur des gains de productivité facilite alors la répartition du revenu national. C'était une époque heureuse, où l'on voit tout à la fois le pouvoir d'achat augmenter, les transferts et les revenus de remplacement amorcer leur courbe ascendante, les budgets publics quasiment en équilibre, alors même que les dépenses s'accroissent, les entreprises dégagent aussi des marges confortables d'autofinancement. Enfin, et ce n'est pas le moindre des composantes de ce modèle socio-économique, c'est la reconnaissance, partout en Europe, des partenaires sociaux, de la légitimité et de l'utilité du syndicalisme. C'est le développement de la négociation collective comme résolution normale des conflits, du travail, bien sûr, et le rôle, plus ou moins institutionnalisé selon les cas, du dialogue social pour construire des compromis dynamiques et sociaux permanents. La situation plus atypique en France, de ce point de vue, ne doit pas occulter la situation dominante en Europe, de ce point de vue, de la place et du rôle des acteurs sociaux et de la négociation collective. Ainsi, par-delà donc les différences, on peut en effet considérer que les sociétés européennes ont partagé une dynamique largement identique. En conclusion de cette première partie, je dirais tout simplement que le modèle social européen a été bien plus qu'une affaire de redistribution ou de mise en place d'un filet de sécurité pour quelques-uns. Cela a été autant un processus de modernisation socio-économique et de changement qui a permis croissance, mobilité, intégration et ascension sociale. Et s'il y a donc quelque chose qui caractérise à mes yeux ce modèle davantage européen que ce modèle social tout court, c'est cette imbrication permanente entre le projet économique, le projet politique au départ, mais le projet économique qui intègre les dimensions sociales pour sa bonne réussite. Et c'est à ce titre que je continue à préférer parler de modèle européen ou de modèle de développement économique et social européen. Alors, ce modèle social, selon le concept usuel, ce modèle européen, est-il encore au cœur de l'identité européenne ? Et là, nous approchons, je voudrais développer devant vous le contexte actuel auquel cette question est confrontée. À l'heure de sa réunification, l'Europe connaît incontestablement un enlisement sur plusieurs plans. L'enlisement institutionnel, la croissance qui aujourd'hui est plus ou moins plombée, les inquiétudes aussi qui sont liées aux conséquences sociales d'une concurrence économique très intensive, qu'elle soit d'ailleurs intra- ou extra-européenne. Tout cela est fort. Pensons encore à l'avenir des systèmes de protection sociale qui paraît très incertain, alors que des pays, et pas des moindres, restent encore affectés par un chômage de masse, à un point qu'il semble difficile à résorber. Le modèle économique et social semble donc se déliter, sous les effets d'une remise en cause multidimensionnelle. En fait, il est confronté à un changement de contexte qui oblige peut-être maintenant à l'explicitation, à la formulation, à la formalisation d'une nouvelle dynamique politique, économique et sociale. D'une part, l'ancienne dynamique sociopolitique, souvent qualifiée de façon générique de social-démocrate, a rempli son programme de mise en place de l'État-providence. La part atteinte par les dépenses publiques, les dépenses sociales, voisine de 50% du PIB, donne une idée du niveau de protection sans équivalent atteint dans les pays européens et une idée de l'intervention des administrations. Mais aujourd'hui, le chômage, les situations de pauvreté difficiles à résorber, l'insécurité dans l'emploi, les besoins nouveaux de prise en compte qui sont à prendre en charge, illustrent la limite de l'efficacité des politiques redistributives telles qu'elles ont fonctionné jusqu'à présent. D'autre part, les sociétés européennes font l'objet de processus de fragmentation sociale, toutes, quasiment toutes, à des degrés divers. Des processus induits autant par les transformations socioculturelles que connaissent les populations que par des mutations économiques qui affectent profondément l'emploi et le travail. Dans les sociétés en pulse, la montée des corporatismes et des phénomènes communautaires, les ressorts de l'individualisation mettent incontestablement à mal les formes et les mécanismes de la solidarité. Des ressources rares rendent les arbitrages plus complexes et la répartition entre les bénéficiaires est d'autant plus conflictuelle qu'elle reste d'une certaine manière opaque. À ces évolutions internes de fragmentation viennent s'ajouter les mécanismes, appelons-les pour les besoins de cette démonstration, corrosifs de la mondialisation. D'un côté, l'efficience du modèle libéral d'outre-Atlantique, faite de flexibilité, de fiscalité allégée, de prévoyance individuelle et d'assistance que l'on pourrait qualifier de compassionnelle. D'un autre côté, la nouvelle vague d'industrialisation dans les pays émergents et les délocalisations suscitent des inquiétudes d'autant plus vives qu'il s'agit aujourd'hui de la Chine et que tout laisse à penser que la concurrence ne se limitera pas aux emplois non qualifiés. On assiste donc à la fin de la division internationale du travail construite depuis 2 siècles. Cette évolution est confortée par les stratégies des firmes multinationales, elles, actrices globales dans ce monde global, déployées à l'échelle du monde et qui mettent en concurrence les territoires. L'importance des défis auxquels il faudrait apporter des réponses rend bien sûr la tâche peu aisée. Mais elle se trouve rendue encore plus ardue par la conjoncture historique que traverse l'Europe. Une conjoncture historique qui, il faut le dire, fragilise l'Union européenne. Si l'Europe est née et à progresser par la volonté de quelques nations, dans le contexte tel que j'ai tenté vous le décrire au début de mon propos, ce sont ces quelques nations qui ont joué un rôle moteur dans la dynamique d'entraînement et dans la volonté de construire cette Europe. Or, l'avenir européen est désormais pensé d'abord au niveau institutionnel, par en haut, alors même qu'il y a un repli des États et des sociétés sur elles-mêmes. La construction institutionnelle reste en elle-même inachevée, inaboutie, menaçant d'une certaine manière, dans certains domaines, l'union de paralysie. Cela compromet bien sûr le pilotage conjoncturel macroéconomique, la mise en place d'une politique structurelle de développement, l'adoption des orientations stratégiques indispensables. Et l'arrivée des nouveaux membres, plus soucieux de profiter à plein de l'Union pour accélérer leur croissance que de jouer la carte de l'intégration sociale, peut encore compliquer la tâche jusqu'à la rapprocher des travaux d'Hercule, à moins que ce ne soit même celle du supplice de Sisyphe. Cette hésitation de l'Europe aujourd'hui est bien évidemment fâcheuse dans le contexte mondial actuel. La chronique du monde, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale ou politico-militaire, apporte quotidiennement l'illustration des graves inconvénients, pour employer un euphémisme, de l'absence de l'Europe sur la scène internationale. Le monde a besoin d'être mieux équilibré, il a besoin d'être mieux régulé, d'être un minimum gouverné. Dans ce travail de gestation, l'Europe a une place qui tient non point à une supériorité passée, qui pourrait lui donner quelque arrogance parfois, mais à cette articulation particulière entre un choix politique et un projet économique et social qui fait la spécificité de ce modèle européen. Encore faut-il que les Européens soient convaincus qu'il est possible, aujourd'hui, de renouveler ce modèle dans la continuité des principes qui l'ont fondé et qu'ils veuillent, ici et maintenant, en faire un nouveau facteur. Un nouveau facteur de dynamisme et non un élément de nostalgie. L'Europe sera peut-être alors aussi mieux armée pour créer un effet d'entraînement sur la scène internationale. Cela passe en premier lieu par la capacité à apporter des réponses, bien sûr, à toute une série de questions que je ne peux qu'évoquer succinctement devant vous. Le dossier des retraites, par exemple, pourtant un des plus simples, sans doute, sur le plan des solutions pratiques, peut illustrer la difficulté de la question, et pas seulement en France. Le modèle social européen s'est transformé en acquis stratifié, qui craque, qui prend haut d'un peu toutes parts. Il ne s'agit pas de faire table rase de ce passé, mais de voir comment il peut être profondément renouvelé dans sa méthode comme dans son contenu. Mais alors qu'au lendemain de la guerre, il n'y avait pas eu besoin de l'expliciter a priori, il n'en est plus du tout de même aujourd'hui, et sans doute est-ce là que le bât blesse. Certes, il est toujours possible d'aller de replâtrage plus ou moins durable en replâtrage provisoire, de construire des compromis ou des réponses circonstancielles et instables en fonction des rapports de force. Ce serait faire l'économie d'aller au fond des choses, dans un climat qui, justement, est dominé par la crainte des changements et par des replis sur soi conservateurs. C'est à cette question, finalement, très politique, que les Européens, dans leur ensemble, et bien sûr ceux qui les représentent, doivent apporter une réponse. Après la chute du mur, dans un monde globalisé mais sans gouvernance, les Européens se reconnaissent-ils encore et à nouveau un destin commun? Et lequel est-il? Veulent-ils faire une communauté d'intérêts et une société politique? La question institutionnelle, aussi déterminante soit-elle, ne contient pas en elle-même toute la réponse. L'organisation de ce vouloir vivre ensemble, c'est aussi l'acceptation toujours des différences, de spécificités nationales voire régionales, non pas dans l'indifférence d'une cohabitation plus ou moins bien tolérée, mais dans l'exercice d'une solidarité responsable qui permet, qui rend possible l'intégration sociale et conforte la confiance nécessaire dans la coopération mutuelle. C'est dire l'importance dans ce travail qui devient presque en lui-même constitutionnel de la société civile. Il n'y a pas que les institutions, que le haut qui peut penser cet avenir s'il ne s'appuie pas sur des volontés et des dynamiques de la société civile. Les corps intermédiaires, donc, représentatifs de la société civile, le dialogue social entre eux, peut être et doit être, tout simplement parce que sans lui, l'objectif ne sera pas atteint dans de bonnes conditions, et de l'entreprise à l'Europe, fondateur de nouvelles réponses, de nouveaux compromis à construire, de nouveaux contrats, finalement, à reconstruire et à même de refaire sens. Il vaut la peine de rappeler que, de ce point de vue, nous ne sommes pas au point zéro en Europe. Les partenaires sociaux disposent des moyens institutionnels que leur a donné le protocole social de Maastricht, désormais inclus dans le traité. Cet aspect que l'on a tendance à oublier ou à minimiser peut justement s'avérer être un levier déterminant pour le futur, peut-être proche pour la convergence sociale en Europe. Les cadres et les règles sont en place. Et s'il y a déficit, eh bien, c'est au niveau de la volonté des acteurs, de tous bords sans doute, qu'il faut regarder. Les défis que les Européens ont à relever sont donc connus de tous, que l'on parle de l'atonie de la croissance, de la gangrène du chômage, du vieillissement démographique, de la nécessaire adaptation des systèmes de protection sociale aux risques sociaux d'aujourd'hui, que l'on pense à l'ampleur des inégalités, à la fragilité des solidarités. Tout cela dans une mondialisation mue par la compétition généralisée et la concurrence des nations et des ensembles régionaux. Toutes ces questions, donc, nécessitent un renouvellement en profondeur du développement économique et social européen, et c'est cela qu'il convient d'entreprendre. Il s'agit d'inventer, pour aujourd'hui et pour demain, la nouvelle alchimie de la performance économique de l'Europe et de l'intégration sociale. Les dispositifs collectifs qui autorisent, qui nécessitent aujourd'hui autonomie personnelle et exercice de la responsabilité. Les ingrédients, si l'on peut ainsi dire, sont tout autant inventoriés. On sait qu'il faut avancer vers des politiques d'investissement au service de l'innovation, au service de la recherche-développement, de la construction de pôles européens de compétitivité, qu'il faut conduire et accompagner les mutations des systèmes technologiques et des appareils productifs. Tout cela nécessite des réflexions, nécessite des choix, nécessite des réponses aux questions de politique économique que l'on sait aussi là identifier, que l'on pense à la non-coopération fiscale, à l'insuffisance budgétaire, alors que les fonds structurels sont un pilier de l'objectif d'intégration, que l'on pense au défaut de coordination de la gestion macroéconomique conjoncturelle, ou même à la redéfinition du modus vivendi avec la Banque centrale européenne, enfin, que l'on pense à la mission des services publics, dans l'accès de tous à des services et des biens essentiels. L'objectif du plein emploi à l'échelle de l'Europe doit être au cœur des stratégies coopératives, évidemment, et au cœur de stratégies coopératives qui n'interdisent pas la concurrence entre les territoires, mais qui excluent, par contre, les politiques d'exportation du chômage, politiques destructrices de l'intégration européenne. La contrepartie, on le sait à tout cela, c'est la politique des fonds structurels et de cohésion qui doivent être à la hauteur des défis. Ce n'est pas d'uniformité d'un modèle d'emploi dont je souhaite parler. Il s'agit au contraire de jouer sur la différenciation, mais sur une différenciation par la qualité et l'attractivité des territoires et des populations qui y vivent et qui y travaillent. Il y a près de cinq siècles, je peux dans ces lieux faire référence à ce qu'écrivait Jean Bodin à l'époque, il n'y a de richesse que d'hommes. En voulant dire par là, bien sûr, que c'est l'importance de la population qui fait la puissance du royaume. En lui donnant un sens évidemment différent aujourd'hui, peut-être n'est-il pas inutile de se référer à ce propos « il n'y a de richesse que d'hommes » par la formation des hommes, par l'investissement dans le savoir et le savoir-faire, le développement de leurs compétences, l'organisation de leur mobilité nécessaire, mais sans brutalité sociale. Tout cela est une ressource précieuse qui conditionneront la croissance et la cohésion sociale de demain. Le nouvel horizon pour l'Europe, c'est aussi, je crois, le développement durable dans ses dimensions sociales, sociétales et environnementales. Il ne faut pas s'y tromper. Le thème, si à la mode, diront certains, de la responsabilité sociale de l'entreprise, est, je le crois profondément, potentiellement porteur d'un changement de paradigme. Au lieu d'opposer encore et toujours l'entreprise et la société, l'entreprise et son environnement, dans un face-à-face stérile, la responsabilité sociale des entreprises permet peut-être enfin la rencontre possible des attentes de la société et des pratiques des entreprises. Le nouveau dialogue de l'ensemble des parties prenantes crée les conditions qui permettent l'internalisation dans l'entreprise au stade de la définition des stratégies d'entreprise comme dans leur concrétisation, de différentes préoccupations, de différents coûts qu'entraîne la prise en compte de ces préoccupations qui restaient jusqu'à présent externalisées, renvoyées à d'autres et donc non assumées par l'entreprise. Pensons au coût environnemental, par exemple. La responsabilité sociale des entreprises ne supplée pas au rôle de la puissance publique, mais elle contribue à la réinvention des régulations économiques et sociales dont les acteurs collectifs et individuels, qu'ils soient personnes morales ou physiques, publiques ou privées, ont besoin aujourd'hui. Cette nouvelle conception de l'entreprise et de ses relations à la société offre sans doute une opportunité historique, à condition, là encore, de la saisir, dans la refondation du modèle économique et social européen. Vous aurez compris que je ne partage en rien le pessimisme sur la fin annoncée de ce modèle dont l'Europe est porteuse. Cela ne m'empêche pas de considérer que la partie est loin d'être gagnée. Sans angélisme, sans sous-estimer les conflits qui portent autant sur les symboles que sur des intérêts réels, c'est tout simplement une invitation pressante à sortir de cette panne d'espoir qui travaille et qui tenaille nos sociétés à laquelle j'invite. Les Européens ont à leur disposition, me semble-t-il, par leur histoire, par leur expérience de ce modèle, tout ce qu'il faut pour gagner ce pari. Encore faut-il le vouloir et se mettre à la tâche. Je vous remercie.
C'était Nicole Nota, présidente de la Société de notation sociale des entreprises, Vigeo, ancien secrétaire général de la CFDT. Madame Nota intervenait devant l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 22 mars 2004. La communication que nous venons d'entendre était intitulée « Quel avenir pour le modèle social européen ?». Vous pouvez retrouver l'intégralité du texte de cette intervention sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques. Voici l'adresse www.asmp.fr. Le site vous propose également de découvrir l'ensemble des travaux de l'Académie et des académiciens.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.